Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Nous allons parler aujourd'hui de l'écriture pour les jeunes. Donc il y a marqué écrire pour les jeunes, mais sans les prendre pour des idiots, ce qui est un petit peu naturel, mais on va vous parler de l'écriture pour les jeunes. Alors, pour parler de ce type d'écriture, nous avons quatre personnes autour de nous. Nous avons Samantha Bailly. C'est une jeune auteure qui est titulaire d'un master en lettres modernes, qui travaille chez Ubisoft, c'est bien ça, et qui écrit depuis déjà, malgré son jeune âge, depuis quelques années, puisqu'elle a commencé déjà à faire parler d'elle depuis le lycée, si je ne me trompe pas.
C'est ça marche. Oui, c'est ça.
Et son premier cycle qui s'appelle Au-delà de l'oraison a déjà été remarqué. Parmi nous, nous avons aussi Pierre Bordage, qui a lui aussi une maîtrise de lettres modernes.
C'est une sorte de malédiction.
Qui est auteur de science-fiction et de fantasy, que l'on peut classer un peu dans le côté humaniste, on va dire, de l'écriture. On lui doit beaucoup de choses, comme Les Guerriers du Silence, Wang, Les Derniers Hommes, puis des livres d'écriture pour adultes, pour jeunesse. Il est aussi directeur, c'est ça, des Utopiales.
Président de l'association.
Président de l'association.
Sur le président.
Nous avons aussi Johan Elliott, qui est un auteur plutôt tourné vers la jeunesse. On lui doit des livres, quoi, des séries comme La Lune seule le sait, qui est du steampunk. On lui doit aussi la fantaisie urbaine, et puis d'autres livres pour jeunesse un peu plus inclassables, comme Les Vagabonds de l'Entremonde, Ados sous contrôle. Et il est professeur.
J'étais professeur de français et d'histoire géo. Et moi, j'ai une maîtrise, mais d'histoire. Donc, si ça intéresse quelqu'un. Mais...
Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui sont quand même relativement tournés vers les lettres, hein, déjà naturellement. Non, pas. Et donc, Karine Arrozenfeld, notre dernière intervenante, qui est une auteure jeunesse qui écrit de la SF et du fantastique. On lui doit en particulier la quête des livres au monde, et elle avait commencé à se faire connaître avec un livre qui s'appelait Lucille et le dragon sourd, c'est bien ça?
Oui.
Bon, voilà, donc ce tour de présentation étant fait, je vous attaquer le vif du sujet. Alors, écrire pour les jeunes, on va commencer par une première question, un mot, Karina Rosenfeld. Pourquoi?
Bonne question. Je ne sais pas. J'ai toujours écrit comme ça, et il s'avère que quand j'écris, on me dit que c'est pour les jeunes. Alors, peut-être parce que j'ai gardé un état d'esprit très jeune. Peut-être parce que je considère que écrire pour les jeunes, c'est pas juste écrire pour les jeunes, c'est écrire pour tout le monde, avec une ouverture plus particulière vers les jeunes. Peut-être parce qu'en écrivant les histoires que j'écris, je m'adresse à celles que j'étais il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, et que ça m'inspire les histoires. Je dirais pas les histoires que j'aurais aimé lire, parce que c'est un peu prétentieux, mais peut-être me dire, voilà, aujourd'hui j'aurai tel âge, quel genre d'histoire j'aimerais lire. Par rapport à ce que je lis et par rapport à ce qui m'inspire. Donc ça sort tout seul comme ça. On me dirait, est-ce que tu saurais écrire pour les adultes? Aujourd'hui, je pense que je ne saurais pas écrire pour les adultes. Je ne sais pas écrire autrement que comme ça. Donc voilà, j'écris comme je le sens, et puis un jour, un éditeur m'a dit, ce que tu écris, c'est pour la jeunesse. Alors j'ai dit, bah d'accord, pas de souci, moi je suis jeune, allons-y.
Pareil, je pense que quand j'ai écrit La langue du silence, je m'adressais tout simplement à celle que j'étais aussi à l'époque, enfin, ce qui n'est pas si lointain. Donc j'étais au lycée en fait quand je l'ai écrit, et forcément ça me paraît tout à fait logique qu'un roman qu'on écrit à cet âge-là s'adresse à des personnes qui avaient à peu près le même âge. Enfin, ça me paraît du coup très, très logique dans ce sens-là. Ensuite, j'ai aussi écrit un roman récemment pour les adultes. Et honnêtement, je ne sens pas particulièrement différent, parce que je ne me suis pas dit je veux écrire à telle ou telle personne. Voilà, ce n'est pas forcément justement l'histoire que j'avais envie de lire. Mais là, c'était vraiment qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et ce sera ça. Et en effet, après, l'éditeur, comme disait justement Karina, va dire vers quoi ça s'oriente. Mais je trouve toujours que c'est des barrières rigides, des catégories dont on a besoin pour savoir à quoi ça correspond, à qui ça peut s'adresser. Mais je pense que tous les auteurs ici vont témoigner du fait que voilà, ils s'adressent peut-être pas forcément à quelqu'un en particulier. Voilà.
D'accord, moi, je peux comprendre ça effectivement de jeunes auteurs comme vous, mais par exemple Pierre Bordage. qui est quand même un auteur beaucoup plus établi et beaucoup plus qui a quand même une bibliographie fournie, autant le dire. Et plutôt tourné, comme au départ, pour les adultes. Donc, venir à la jeunesse, après, là c'est quelque chose de volontaire.
Bien sûr que c'est volontaire, dans la mesure où c'est moi qui prends les décisions. je me sens mal dans ces couches. Trop vieux. Je suis venu à la jeunesse par un concours de circonstances qui fait que ce sont des directeurs de collections jeunesse qui m'ont demandé d'écrire des livres pour la jeunesse dans des collections jeunesse. Entre autres, une chronique que je fais pour Alain Grousset, Johan a participé d'ailleurs, et donc qui s'appelle Ceux qui sauront, ceux qui rêvent, et il y en a un troisième qui s'appellera Ceux qui osent. Voilà, on m'a dit, moi j'ai vu, c'est un ami, donc je peux difficilement résister à l'invitation d'un ami. Et donc, j'ai dit d'accord, et j'avais écrit un mot qui s'appelle Kaina, la prophétie, qui était, là c'est un peu différent parce que c'est tiré d'un dessin animé, que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, peut-être, bien qu'il soit passé un peu inaperçu, alors que c'était le premier film fait entièrement à l'ordinateur en France. Et donc j'ai participé au scénario, et puis j'ai écrit le roman ensuite, c'est aussi Denis Quillot qui m'a proposé de faire partie de sa collection qui était dans Mango Jeunesse. Donc voilà, je me suis retrouvé dans les romans. Alors après, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Avant, je m'étais jamais posé la question, enfin, pour qui j'écrivais? J'écrivais pour tout le monde, quoi. Enfin, pour tous ceux qui ont envie de lire, en gros. Et puis là, qu'est-ce qu'il fallait changer d'un seul coup dans ma écriture habituelle pour s'adresser à un public jeune? Et finalement, je me rends compte que ça ne changeait rien, ou pas grand-chose. Parce que l'écriture, c'est toujours la même. Je pense que l'écriture, c'est une musique intérieure chez un auteur, et que cette musique, elle se transmet dans n'importe quel bouquin et dans n'importe quelle collection, finalement, parce que c'est vraiment un truc de collection, quoi. On est dans une collection jeune. J'ai remarqué que toutes les uchroniques que j'ai faites là, pour le Flammarion Jeunesse, elles sont lues par des adultes. Donc voilà, les frontières sont très très larges. Alors, qu'est-ce que ça change peut-être ce que je vais oser le dire, oui. Peut-être moins de scènes de sexe explicites. Voilà. Parce que vous savez que malheureusement, les collections jeunesse sont toujours sous le coup de la loi de censure en France, ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'un bouquin jeunesse peut être censuré. Sinon, je ne m'interdis rien, par principe. Je sais que derrière, j'ai un directeur de collection ou un éditeur qui va éventuellement raboter en disant là, ça va être difficile à passer. Dans une collection jeunesse, mais ça n'est pas arrivé, hein, donc voilà, ça s'est fait presque spontanément. C'est une adaptation. Je savais simplement qu'à l'autre bout de la chaîne du livre, il y avait des lecteurs plus jeunes. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que j'avais en tête en écrivant. Sinon, c'est le même métier, c'est la même façon d'écrire, c'est les mêmes histoires, c'est les mêmes persos, sauf que les persos sont peut-être parfois un peu plus jeunes aussi, parce que plus identifiés à l'adolescence, bien que l'adolescence soit le personnage récurrent de toute la littérature héroïque. Ce sont souvent des adolescents qui partent en quête. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'expérience, parce que peut-être aussi, il y a un aspect qui est important, c'est que ça oblige, enfin moi ça m'oblige, je suis un peu tendance à m'étaler dans les bouquins, vous voyez, c'est des gros bouquins, ça m'oblige à être plus précis, plus concis, plus rapide.
Voilà. Bien, merci. On reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, peut-être sur notre temps. Sur les personnages, effectivement, sur les adolescents. Moi, ce que j'en ai alors lu ou su des livres que vous avez tous écrits, c'est le point commun, je dirais, de tous vos livres, c'est les univers que vous avez conçus. Et en particulier, donc, je pense aux univers relativement précis, détaillés, mais un peu décalés de Johan.
Oui, alors, tout d'abord, juste pour rebondir, enfin, répondre à la question pourquoi, j'allais en fait donner un petit peu la même réponse que Pierre. Bon, pourquoi aussi? Parce qu'on me l'a demandé, et en l'occurrence aussi la même personne au départ, à savoir Denis Guillot, qui dirige à l'époque la collection Autre Monde, une collection spécialisée en science-fiction jeunesse. Et je me souviens avoir eu une réaction un peu stupide, puisque quand on m'a posé la question, j'écrivais depuis 3, 4, 5 ans, à la limite sans poser la question sur pour qui j'écrivais, mais il se trouvait que mes bouquins étaient publiés dans des collections dites adultes. Même si je me rendais bien compte, comme Pierre, que quand on écrit de la science-fiction, de la fantasy, dans des collections adultes, on est quand même lu aussi par pas mal de jeunes lecteurs, par pas mal de lecteurs ados, enfin, de lecteurs de vos âges. Mais bref, quand ce directeur de collection, cette fois-ci vraiment estampillé jeunesse, m'a posé la question, très stupidement, j'ai répondu, ben bon, moi je suis content, oui, pourquoi pas, mais je ne saurais pas faire. Et là, il a eu cette honnêteté de dire, oui, c'est stupide comme réaction, parce que, à la limite, c'est moi, en tant que directeur de collection, qui déciderai si tu sais ou si tu ne sais pas faire, mais à la limite, tu sais raconter des histoires, donc ne te pose pas la question, éventuellement, de savoir, est-ce qu'il y aurait une méthode particulière à adopter parce qu'on s'adresserait à tel public? Non, raconte l'histoire que tu as envie de raconter. Et donc, en fait, oui, donc c'est un faux problème de se dire, à la limite, bon, on publie pour la jeunesse. Non, on écrit les histoires qu'on a envie de raconter. On sait, effectivement, comme le rappelait Pierre, que bah, du fait de cette fameuse loi de 1949 qui peut nous faire tomber sous le coup de la censure, il y a certaines choses qu'il faut éventuellement pas mettre, mais encore... de moins en moins, on s'interdit, comme le rappelait Pierre également, de moins en moins de choses, et puis ça passe finalement. Donc, sur le côté de est-ce qu'il y aurait une spécificité d'écriture jeunesse, bah, pour ma part, je réponds à nouveau non, je n'en vois pas. Enfin, à moins bien sûr qu'on veuille écrire vraiment pour les très très jeunes lecteurs, les lecteurs débutants de l'école primaire, effectivement. Là, on va écrire différemment. Mais quand on reste à des lecteurs de vos âges, non, moi j'écris l'histoire telle qu'elle doit être écrite. Voilà. Et ensuite, on pose la question donc, des univers particuliers. Et donc, quelle était la question précisément alors, pour le coup, Pascal?
Oui, donc je disais que les univers que vous mettiez dans vos romans étaient des univers que j'ai trouvé relativement détaillés, complets, un peu précis, mais toujours un peu décalés.
Ah, bah oui, décalés, puisque. Par exemple, dernier bouquin qui est paru en collection jeunesse, donc celui-ci, qui est le troisième tome d'une série qui s'appelle Le Tempestaire, alors ça relèverait de la fantaisie historique. Je me suis autant inspiré, à la limite, de certaines réalités. On est un peu dans le monde de la marine à voile du 18e siècle. Pardon, j'ai un trou dans la gorge, c'est très embêtant. Voilà, ça passe à peu près. Et donc, vas-y, pas trop fort, non. Et comme pour la plupart de mes bouquins, petite formation d'historien, j'aime bien me plonger dans pas mal de documentation pour nourrir ces univers, pour aller chercher le détail, l'anecdote, voir les personnages que je n'hésite pas à emprunter à la réalité, pour mélanger tout ça dans des univers ensuite que je décale de plus en plus pour les emmener vers mon propre imaginaire. Disons, c'est la recette que j'applique, mais là je dirais quel que soit le livre que j'écris, quelle que soit la collection dans laquelle il doit paraître.
D'accord, donc c'est plus un état d'esprit de l'auteur.
Je pense qu'on a chacun effectivement une manière privilégiée de raconter nos histoires, et ensuite, voilà, quelle que soit la destination. On en a toujours la même chose, je crois sincèrement que la question de la destination du public, c'est plus un souci d'éditeur que d'auteur.
Oui, mais l'an dernier, j'ai animé une conférence qui était écrire pour les jeunes et plus pour les adultes. Non, écrire pour les adultes et plus pour les jeunes, où on était tombé exactement sur la même solution, c'est-à-dire de dire, en fait, les auteurs écrivent et ensuite ce sont les éditeurs qui disent si ce sont des livres pour les jeunes ou pour les adultes.
Et ensuite, encore au-delà des éditeurs, c'est le public, c'est les lecteurs, après, qui s'emparent ou non d'un récit. Et souvent, on a des surprises, effectivement, parfois, parce que la collection est estampillée plutôt sur tel âge, on se dit, tiens, on va être plus par au hasard des jeunes collégiens, et on s'aperçoit que, ben non, c'est des jeunes adultes, ou vice-versa. Il n'y a pas forcément de règles, je crois. Ensuite, en dernier recours, c'est les lecteurs, c'est le public qui a le dernier mot.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des thèmes qui correspondent plus à l'adolescence ou à la jeunesse, je pense à la mort par exemple?
Mais moi, du coup, j'ai pas du tout l'impression que, justement, quand j'ai parlé du fait qu'au-delà de l'oraison, ça parlait en effet d'une religion, de la question c'était qu'est-ce que devenait l'âme après la mort, etc. On m'a dit, ah, c'est très adolescent, et moi, je trouve pas que c'est un thème particulièrement adolescent. Bon, je suppose que. On pourrait partir dans des débats de psychologie de comptoir intéressants sur pourquoi on est fasciné par la mort, etc. Je pense que, enfin, que ce soit la quête de soi, la mort ou des choses comme ça, ça reste des questions transversales à la littérature dans tous ses aspects, pas forcément d'ailleurs en fantasy. Et comme, voilà, je pense en effet qu'on s'empare à chacun voilà, d'un thème qui nous parle plus particulièrement, qui nous fait écho. Et justement, le problème de la langue du silence, c'est que quand j'allais dans les librairies, on me disait, ah ben moi je l'ai classé en adulte. Et j'allais dans une autre librairie, on me disait, ah non, mais moi je trouve que c'est pour les jeunes. Parce qu'en effet, il y a certaines scènes un peu explicites, donc ça en revient à ce que disait justement Pierre tout à l'heure, qui font que bah, je pense qu'en fonction des sensibilités, bah, en l'occurrence, ça c'était les libraires, n'ont pas les mêmes visions de la classification jeunesse ou adulte. Mais voilà, ça laisse la question ouverte, parce qu'en l'occurrence, c'était en fonction des lecteurs. Et j'ai autant des hommes de 40 ans qui sont venus me voir que des adolescents, donc.
Et le rêve, par exemple.
Dans quel sens?
Dans tous les sens.
Le rêve, ben c'est un rêve permanent. Souvent, je fais des rêves qui m'inspirent mes idées, et ensuite, je rêve que j'écris mes idées, et j'écris mes rêves quand je...
Ça fait le bordel.
Ah ouais, non, grave. Je dis souvent que dans ma tête, j'ai beaucoup de monde, pas de monde des gens, des mondes de ES, des univers. Ça prend beaucoup de place. Et bah, les mondes, je les écris comme ils viennent, et comme encore une fois, je me pose pas la question de me dire est-ce que j'écris pour telle tranche d'âge, pour tel âge, pour... comme on se dit pas est-ce que j'écris pour les garçons ou pour les filles, on écrit tout court, on cherche pas à savoir, on écrit pour le maximum de gens qui pourra aimer nos histoires, et puis c'est tout. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu surprise dans mes tout premiers salons de voir le nombre d'adultes qui venaient acheter mes livres. Alors moi, un peu naïve, j'en dis non, mais c'est pour les jeunes. Ouais, on sait, mais on aime ça. Et donc après, je fais plus de réflexion, maintenant tout le monde peut. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, et c'est là où j'ai découvert qu'effectivement il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, et cette limite, on va la créer artificiellement, je pense.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je me suis rendu compte, à force de fréquenter certains salons, que par exemple, les collections de science-fiction jeunesse, elles sont souvent une entrée dans la science-fiction pour un public adulte qui se dit... parfois, je veux dire, impressionné effectivement par un gros livre de science-fiction adulte, des choses trop compliquées entre guillemets pour qui ne se serait pas initié d'abord par des choses plus courtes, puisque bon, le plus souvent, voilà, ce sont quand même des livres plus courts. Donc ça, oui, ça, je me rends compte, beaucoup d'adultes viennent au genre spécifique science-fiction. Je pense pareil pour la fantasy. D'abord par le biais de ces collections jeunesse, donc qui ont aussi ce mérite-là.
Alors en ce moment, ce que l'on remarque quand même sur les étals des libraires, c'est l'omniprésence d'un certain nombre de collections dites jeunes, et même très jeunes, venues d'outre-Atlantique, qui ont tendance effectivement à être un petit peu niaises, comme faut le reconnaître. Et par contre, votre littérature, la littérature française, mais un petit peu plus générale, et a l'air un peu plus profonde, un peu plus, j'allais pas dire mature, mais justement on rentre dans le thème du débat d'aujourd'hui, qui est écrire pour les jeunes, mais ne pas les prendre pour des idiots, ce qui est effectivement un petit peu votre type d'univers. C'est vraiment, alors, donc est-ce que c'est peut-être, justement dans le dosage un petit peu, parce que si je prends Pierre en particulier, les univers ne sont pas complètement noirs, pas à l'eau de rose non plus, il y a un gris. Un gris, c'est un dosage subtil.
Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure qu'on écrivait les choses comme on les ressent, mais oui, j'écris les choses comme je les ressens. Et alors, ce qui est intéressant dans la littérature adolescente ou lue par des adolescents, c'est qu'on est à un âge initiatique. Je pense qu'il y a tout un tas de découvertes qui se passent à l'adolescence. Je pense qu'on ne sait plus accompagner l'adolescence dans nos mondes. Il n'y a plus de rituel de passage à l'âge adulte, comme il y avait la quête de vision chez les Indiens d'Amérique du Nord. Hein, c'est-à-dire, on envoyait le gamin ou 4 jours, plusieurs jours tout seul dans la forêt, à charge à lui de se débrouiller, tout ça, c'était son passage. Il y avait un rituel de passage à l'adulte, il n'y a plus ça chez nous. Donc c'est un monde de changement, de profond bouleversement, et sans réponse. Il n'y a pas de réponse derrière. Voilà, on grandit comme on peut finalement dans nos sociétés. Et je pense que cette littérature essaye finalement de répondre à ce sens, à cette recherche initiatique, de savoir qui on est et vers quoi l'on va. Parce que souvent, ce sont des épreuves initiatiques. Les héros, surtout des livres d'aventure, des livres imaginaires, sont des personnages qui vont vivre des aventures initiatiques et grandir après les épreuves. C'est la base même du roman initiatique qu'on retrouve depuis la mythologie. Ce sont toujours des jeunes qui se lèvent parce que les vieux sont trop vieux comme moi. Ils ont commencé dans leur truc, ils sont riches, ils sont gros, ils ont pas envie de bouger. Quoi. Et donc... ceux qui remettent en cause les sociétés, ce sont les jeunes. Souvent, dans un roman initiatique, le monde va mal. Alors, prenez le Graal, par exemple, c'est le roi se meurt, le royaume se dépérit. Donc il y a une sorte de désespérance qui s'installe, de disharmonie. Et qui va se lever pour essayer de rétablir l'harmonie à la suite d'une série d'épreuves initiatiques? Ce sont les héros, donc les jeunes gens. Et je pense qu'on est là vraiment au cœur du problème. Et même tu parles de la Big Deal et tout ça, toutes ces littératures qui arrivent des États-Unis, je pense que c'est une tentative plus ou moins réussie d'essayer de donner du sens, d'essayer d'entraîner le lecteur dans une sorte de quête initiatique au bout de laquelle il sort changé et grandi. Et c'est mon principe aussi de base dans tous les romans. Au début, ça va mal, le monde va mal. Alors je vais prendre l'exemple de ceux qui sauront, qui est une uchronie, hein, c'est-à-dire l'uchronie c'est une façon de refaire l'histoire, c'est-à-dire que vous replongez dans le passé, vous changez un moment de l'histoire, et donc votre présent est complètement modifié, il y a un décalage avec le présent actuel, et donc moi j'ai pris le principe qu'en 1892, une date que vous connaissez tous, qu'est-ce qui s'est passé en 1892? Je peux faire passer un examen maintenant. Bon, c'est la Troisième République, c'est Gambetta, c'est tout ça, Jules Ferry, et les lois sont promulguées sur l'école libre, laïque et obligatoire. Et l'histoire, c'est que Jules Ferry est tué avant d'avoir, et assassiné avant d'avoir pu promulguer ses lois. Il y a une réaction royaliste qui renverse tout ça et qui interdit. Et là, vous allez dire, ouais, super, l'école aujourd'hui peuple. Ouais, ouais, cool. Or, il se trouve que quand vous supprimez quelque chose à quelqu'un, il n'a plus qu'une envie, c'est de le retrouver. Et donc, évidemment, mes personnages qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit d'apprendre à lire et à écrire. Leur seul désir, c'est d'aller apprendre à lire et écrire la nuit dans des greniers à la lueur des bougies. Vous êtes prêts à ça? Non, je crois pas. Et donc, il y a une disharmonie, et ces personnages, il y a des personnages qui vont se lever là-dedans pour essayer de rétablir une harmonie, qui normalement devrait être prête à dire la fin, si tout va bien, j'espère. En tout cas, ce sera pour le troisième. Et on est bien dans cette idée de la quête adolescente, parce que je pense que l'adolescence, et là, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, c'est une période d'énergie incroyable. C'est la période des bouleversements qui nécessite une profonde et une forte énergie. Et je pense que les auteurs de littérature imaginaire essayent à leur façon de répondre à ce besoin fondamental. Ouais, peut-être. Peut-être pas non plus, hein, je sais pas.
Donc, essayer de créer aussi donc, des personnages en qui on puisse se reconnaître. Des personnages normaux, finalement,
c'est le principe de base de la littérature globale. Hein. C'est-à-dire que ce sont des personnages auxquels on s'identifie. Ce qui fait la différence, d'ailleurs, avec du roman, avec les essais philosophiques et tout, c'est que le lecteur peut s'identifier au personnage et part volontiers avec lui, et donc apprend plein de choses simplement par l'empathie. C'est le but des romans, je pense.
Oui. C'est difficile d'aller contre. Oui, c'est évident. D'abord, voilà, on pas respect pour nos aînés. Mais oui, non, mais. Et c'est propre à toutes les littératures, de toute manière, ce fonctionnement. Pour revenir vraiment sur ce que tu disais, alors c'est vrai, sur une certaine vision de la littérature jeunesse, donc, comme tu disais, venue d'Amérique, je crois voir à peu près à quoi tu fais allusion, avant des choses sans doute plus calibrées, etc. Mais alors ensuite, bon, on en pense ce qu'on veut, etc. Mais je pense que sur le fond, ils utilisent de toute façon les mêmes mécanismes. Ensuite, effectivement, si ça tombe dans la recette, fausse recette, parce qu'il n'y en a pas forcément de recette à succès. Sans doute que le public peut trouver un certain ennui à relire toujours la même chose. Ça, bon, je dirais, c'est autre chose. Et puis à la limite, c'est un problème qui existe notamment dans la littérature adulte. Hein, donc, bon, ma foi, on ne peut pas en vouloir non plus, je dirais, aux éditeurs d'essayer de vendre un maximum de livres, parce que ça leur permet aussi de nous publier, nous. Donc, eh oui.
Moi, personnellement, quand j'écris des livres, c'est vrai que ça va être selon les éditeurs et les collections dans lesquelles ça s'insère, mais j'ai pas de limite d'âge. Je vais avoir des héros qui ont 12 ans, 14 ans, 16 ans. La bande d'Oregon, ils ont plus de 20 ans. Pourtant, ça reste de la littérature dite jeunesse. Ils sont étudiants, ils ont des problématiques. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'explorer des problématiques différentes, parce que quand on a 14 ans et 21, 22 ans, on n'a pas la même vision du monde et on n'a pas la même maturité face à certaines situations. Et en tant qu'auteur, ça apporte une grande richesse intérieure de naviguer aussi à travers ces différentes possibilités de tranches d'âge des héros. Donc, je trouve ça intéressant de jamais avoir des héros qui se ressemblent, qui ont le même âge selon les romans. Parce que c'est vrai que même si on va me dire que ça s'adresse à un public jeunesse, j'ai pas toujours envie d'écrire des histoires de 14 ans. J'ai aussi envie d'écrire des histoires de gens un peu plus âgés. Ça me permet vraiment de naviguer à travers tous ces âges, donc c'est intéressant, et d'aborder justement toutes ces problématiques de quête, de reconnaissance, d'évolution, comme disait Pierre, d'énergie qu'on peut avoir, et qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va la canaliser selon les âges qu'on peut avoir. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même un point commun systématique dans mes romans, c'est qu'ils ont tous des capacités ou des pouvoirs particuliers, mes personnages. Peut-être que c'est une métaphore de cette énergie, ce pouvoir d'avoir un truc différent, parce qu'on est tous différents, et même si on n'a pas d'aile dans le dos, on n'est pas capable de se téléporter, on a quand même des capacités chacun différentes, et ça permet de se reconnaître dans ses capacités. Donc c'est vrai que ces jeunes héros, tous en devenir, avec toutes ces possibilités qui s'ouvrent à eux, parce qu'ils sont jeunes, et c'est ça qui les rend passionnants, on peut écrire l'histoire qu'on veut, parce qu'ils ne sont pas encore installés, parce que tout est possible. Et c'est ça qui les rend absolument attachants, passionnants, des aventuriers, des gens avec qui on a envie de vivre l'aventure au fil des pages. Hein. Ben, mais sinon, moi, je trouve qu'il y a certains romans de jeunesse américains qui sont vraiment bien aussi. Quand même.
Oui, il y en a.
Pour en revenir au personnage, oui, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution, c'est un thème vraiment clé, et je crois que quand on démarre un roman, enfin je sais pas, c'est une question justement, on sait à peu près comment vont évoluer nos personnages et vers quoi on va tendre. Enfin, en l'occurrence, ça dépend sur un des cas. Après, il y a toujours des surprises. Je pense qu'il y a des personnages qui prennent leur initiative et leur vie propre au fur et à mesure. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est cette évolution dans laquelle, justement, oui, à l'adolescence, on va se reconnaître parce qu'on est soi-même, comme on disait, dans une sorte de bouillonnement, de bouleversement. Et voilà, mais c'est vrai que je trouve ça toujours un peu réducteur, parce que, alors c'est peut-être mon âge, je ne sais pas, mais j'ai l'impression, voilà, d'être dans cette période-là aussi, et d'être dans le changement, en fait. Et du coup, ça me paraît logique, et j'ai l'impression que c'est quand même des thèmes qu'on retrouve plus généralement, mais je ne sais pas.
Je suis plus vieille, moi.
Bon, alors, depuis le début, on a quand même, en gros, dit que vous n'écriviez pas spécifiquement pour les jeunes, que vous écriviez, et que, c'est vrai que vous étiez lu pour les jeunes. Donc, ça veut dire que vous avez certainement eu des retours des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur votre écriture, sur vos personnages, sur vos romans, sur vos histoires? Est-ce que ça influe sur les idées, la manière dont vous allez traiter les prochaines histoires?
Bonjour. Il y a toutes sortes de réactions, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant avec le jeune public, c'est qu'il ne se prive pas de toutes les réactions positives comme négatives, alors que bon, en adulte, on est souvent un peu plus policé. Non. Mais après, est-ce que ça influe? Je dirais oui et non. Alors bon, effectivement, on ne fait pas la sourde oreille et on... Enfin, personnellement, j'entends effectivement tous les retours, bons comme mauvais, que je peux avoir, mais non, par certains côtés, je m'interdis d'en tirer des conclusions pour en faire à nouveau une recette. Je n'aurais pas tombé dans le... Je veux continuer à écrire ce que moi, je veux écrire. Ce que l'histoire commande à tel moment. Et ma foi, et tant pis si ce n'est pas ce que le public attend. Je pense qu'on se tromperait si on fonctionnait vraiment comme ça. Bon, ça, c'est un avis personnel, mais...
Alors les réactions, ça va de une fois en banlieue parisienne, c'est sérieux monsieur, il est populaire plus de 10 pages. Hein. Bon, maintenant, ça calme tout de suite, ça rabaisse un peu. Enfin, c'est pas que la bonne volonté du manga, mais elle va plus passer 10 pages, donc voilà, c'est très bien. Ah, j'aime beaucoup, etc. Bon, après, c'est un roman, c'est sûr qu'on ne va pas avoir des réactions unanimes. Bon, voilà, donc il faut accepter tout ça. C'est vrai que les jeunes sont quand même beaucoup plus directs que les adultes. Bien qu'on a quelques adultes bien aussi.
C'est
démolir des fois aussi. Bon, et voilà, une fois que c'était le jeu, c'est un jeu qu'on accepte, et puis il n'y a pas de recette. Encore une fois, il n'y a pas de recette, et Johan a raison. Il n'y a absolument aucune recette de succès. Rien ne garantit, même si on a des effets de mode, comme la Ligue actuellement, ou toutes ces modes de vampires et tout ça, il n'y a pas de recette de succès. Donc je pense qu'on ne peut faire. Qu'on ne peut qu'aller dans ce qu'on a profondément envie d'écrire, parce que l'écriture est un exercice tellement solitaire et parfois ingrat que voilà, si en plus on écrit des choses qui ne nous plaisent pas, là, c'est carrément catastrophique, ce serait carrément pas vivable du tout. Donc on a cette chance là, au moins tous les quatre, je pense. Enfin, je connais moins notre jeune, très jeune consoeur. De faire ce qu'on a envie de faire, ça c'est le principal. Et puis après, c'est accepté ou pas, déjà faut franchir le stade de l'éditeur, va-t-il accepter déjà, faut franchir le stade du lecteur, va-t-il accepter, tout ça, ça fait partie du jeu, et c'est un jeu qu'on accepte. À partir du moment où vous mettez quelque chose en public, ben, vous ne savez pas quelle va être la réaction du public, c'est le principe de base. Donc, voilà, on accepte tout, mais si vous dites du mal, ça va chier quand même.
Oui, mais je dis souvent, je rencontre souvent des lecteurs dans les classes, etc., qui me posent plein de questions, mais je leur dis souvent que l'écriture, c'est quelque chose de très intime. Alors que j'ai une idée, j'imagine que pour d'autres auteurs, c'est la même chose, j'ai une idée et je suis dans mon idée. Et alors après, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que c'est dans cette tendance? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Je me pose même pas la question tant que je l'écris, parce que j'ai cette idée, il faut qu'elle sorte, alors elle va sortir comme elle sort. On peut très bien nous dire, c'est nul, j'ai détesté, ben, c'est tout droit, hein. Pas plaire à tout le monde, mais au moins on a cette forme d'honnêteté avec nous-mêmes d'écrire l'histoire telle que nous on la ressent, telle qu'on a envie de la raconter, quelle que soit la réception qu'on en aura par la suite. Et ça, je pense que rester fidèle à soi-même, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va permettre peut-être d'écrire l'histoire la plus juste possible au final, sans se dire est-ce que je suis dans la mode, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est dans l'air du temps, est-ce que c'est... Voilà, moi par exemple, les histoires de vampires, j'ai pas envie d'en écrire. J'en écrirai pas juste parce que c'est la mode, hein. C'est pas que j'aime pas, j'ai pas d'idée de vampire, il m'inspire pas les vampires, donc désolée pour les fans de vampires, mais j'écrirai pas de bitlite. Pourtant on pourrait me dire vas-y, écris une histoire de bitlite, ça va marcher à fond, j'ai pas d'idée, c'est pas ce que j'ai comme conviction intérieure, et donc quand j'écris l'idée que j'ai envie d'exprimer. Et à aucun moment, j'essaye de tomber dans le dire est-ce que le lecteur il va aimer ça à telle ligne, est-ce que ça va lui plaire. Parce que peut-être qu'à un moment, je vais écrire moi, je vais dire ça, j'ai vraiment aimé l'écrire, ça va peut-être pas du tout marcher auprès du lecteur. Tout comme à un moment, on va se dire, bon, bah, ce chapitre-là, on en est peut-être un peu moins content, et puis il va super bien passer. Donc ça, c'est des choses qu'on calcule pas. Quand on dit, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique, et puis ben, on sort ce qu'on a dans les tripes, et puis advienne que pour ensuite. Hein. Que ce soit pour les jeunes, moins jeunes, c'est pas le problème. C'est... rester fidèle à soi-même au final. C'était beau, non? C'était très beau. Non, mais je pense que là, on touche tout simplement à la question de son propre rapport à l'écriture, et ça, c'est en effet personnel à chacun, et ça dépend de pourquoi on écrit. Et en effet, écrire pour son plaisir, ça semble quand même être la base, enfin, il faut le souhaiter, parce que sinon, c'est quand même un peu dommage. Et ensuite, bah, les retours, bien sûr, on en a. Qu'ils soient positifs ou négatifs, de toute façon, quand les personnes font des retours, la seule réponse qui me vient, c'est « mais il est là, enfin, voilà, on peut plus rien changer, maintenant c'est fini, il est sorti », et c'est toujours très intéressant de voir quelles sont les perceptions, mais voilà, le roman, il existe maintenant en tant que tel, les personnages, ils existent et ils sont ce qu'ils sont, ils vont vivre à travers maintenant d'autres personnes, mais les retours après influencer l'écriture... Je pense qu'à moins d'être vraiment traumatisée peut-être par une critique sur un domaine bien précis,
Là, ce serait tout simplement... Enfin, après, il ne faut pas tomber dans l'examen. Je pense qu'il y a toujours des remises en question qui sont intéressantes. Ou alors, justement, rebondir sur un questionnement. Je n'avais pas perçu mon personnage comme ça. Bon, ça peut éveiller la curiosité et peut-être de nouvelles idées, pourquoi pas. Mais c'est sûr que réagir à une commande, j'ai l'impression que ce serait trahir quelque part. Mais...
Bien, je vais alors justement, puisque vous êtes là et je... Visiblement, ils ont l'air pas prêts à prendre des remarques, mais je vous propose de participer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à tous nos auteurs, à nos participants? Donc, il y en a un autre?
Quand vous commencez à écrire, vous savez déjà tout ce que vous allez mettre dedans ou ça vient tout seul?
Moi non.
Ah bah ça c'est une grande question. Alors Francis Berthold qui devrait être là ce week-end, qui est un auteur et qui a écrit pour la jeunesse aussi d'ailleurs je crois, et qui a été chercheur au CNRS, a classé les auteurs en deux catégories. Il y a les, alors des grands mots là, scripturant et structurant. Alors en gros ça veut dire que certains auteurs ont besoin de la structure pour avancer, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de connaître leur histoire avant même de l'écrire. Donc Francis Berthold lui-même dit « je ne peux pas avancer dans l'histoire si je ne connais pas exactement ce qui va se passer à l'échelle ».
Parfois, dans les travaux, je pense qu'il y a des suites, parfois dans le tome 3, il se passe un événement, mais qu'on a déjà préparé depuis le tome
1. Et bien, malgré ça, ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'il y a des histoires complexes et qui sont préparées, et qu'on a des éléments qu'on a déposés au premier tome, posés au premier tome, qu'on va développer au premier tome 3, malgré ça, moi je fais partie des scripturants, donc l'autre catégorie, ce que aussi Karina, je crois, c'est-à-dire que nous, on écrit au fur et à mesure, c'est l'écriture qui nous embarque. On se laisse embarquer par l'écriture et faut faire, à ce moment-là, il faut faire vraiment confiance à ce qui s'écrit puisque c'est le livre qui se structure tout seul. Et tout à l'heure, on a dit que les personnages parfois prenaient leur indépendance et c'est vrai. Moi, j'ai eu un personnage une fois que j'aimais beaucoup et puis voilà, il s'est fait tuer comme un con, vraiment. Et je dis, mais attends, je suis désolé, t'es mort. Je suis mort, donc voilà, terminé. Et il y a des personnages qui sont pas importants au départ et qui prennent l'importance dans le récit. Donc il y a vraiment deux façons de fonctionner, je pense, et après on peut en discuter, peut-être des degrés dans ce fonctionnement-là, mais et c'est presque miraculeux de voir parfois comment les livres se bouclent eux-mêmes, alors qu'on se dit, mais dans quel bordel je suis pris, je ne vais jamais m'en sortir, et le livre lui-même, il se boucle, et c'est quasiment magique, donc il y a un exercice de confiance à faire en ce qui se passe à ce moment-là. Et ça, c'est les scripturants.
C'est les détails qu'on peut mettre qui nous paraissent pas du tout importants dans un tome.
Ouais,
et puis d'un seul coup, on dit, mais si j'utilisais ça à ce moment-là, et ça prend toute son importance, et on a l'impression que c'était fait pour, alors qu'en fait, pas du tout à la base. Donc c'est vrai que moi, j'écris au fil de la première.
Oui, et ça manque pas.
Je crois que je suis un peu entre les deux, en fait, donc je suis très embêtée. J'ai vraiment besoin d'écrire chaque chapitre, en fait, enfin, de faire un réel plan. Mais après, là, je suis dans le cas de figure où voilà, je fais mourir un personnage dans mon premier tome et je suis en train d'écrire une trilogie sur lui qui remet complètement en perspective la façon dont il est mort et quelles sont les motivations qu'il y avait derrière et qui remet aussi en perspective aussi ce premier tome, donc L'Homme du silence. Et voilà, et là, c'est un de ces moments magiques presque de grâce où on relit, on dit mais en fait, c'est ça la solution, sans savoir qu'on s'était posé un problème, en fait, c'est assez étrange. Mais par contre, dans le processus même d'écriture, j'ai vraiment besoin de savoir où je vais et où vont aller les personnages. Sinon, ça me bloque, donc...
Oui, ça, on peut avoir... Enfin, moi, je suis un petit peu comme toi, on peut avoir des intermédiaires. J'aime bien avoir ce que j'appelle une ligne directrice, c'est-à-dire un point à l'horizon vers lequel je vais diriger mon histoire. Mais entre mon point de départ et ce point d'arrivée, tout est possible, effectivement, et l'histoire elle-même va imposer sa propre logique, et on va se découvrir. Je crois qu'il faut... Au bout d'un moment, il faut accepter de se faire confiance en tant qu'auteur. Effectivement, il m'arrive souvent, même à chaque fois dans chaque bouquin, comme hier, de dire voilà, là je suis arrivé là, mais finalement, c'est quoi ce pataquès, qu'est-ce qui va se passer? Et on s'aperçoit finalement, les lignes de force de l'histoire, elles sont là, et puis elles fonctionnent, elles retombent sur ses pieds, les solutions arrivent. Donc voilà, donc on peut jouer, je dirais, un petit peu sur les deux tableaux. Effectivement, rien n'interdit de réfléchir. Un tant soit peu au préalable pour se dire voilà vers quoi je veux aller, et finalement peu importe, mais je ne sais pas comment je vais y aller. Et comment on y va, on le découvre en cours de route en écrivant. Mais ensuite, bon, je crois qu'il y a autant de manières de faire qu'il peut y avoir d'auteurs, mais à soi de trouver là où on est le plus à l'aise, Mais en se disant qu'à la limite, on se fera peur en cours d'écriture, parfois en se disant, voilà, maintenant, comment je vais faire? On laisse reposer tout ça. De toute façon, parce qu'une histoire, même quand on n'est pas en train de l'écrire, on la vit, quelque part, elle est dans notre tête. Donc tout finit par se décanter à un moment ou à un autre.
Mais moi, j'ai de véritables crises de confiance au moment de l'écriture. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment, je fais 250 pages. Imaginez une mine. Vous creusez la mine, vous rentrez dans la mine, vous avez la lumière de l'entrée encore, qui vous éclaire. Puis à un moment, on perd la lumière d'entrée, on n'a pas la lumière de sortie, c'est le noir complet, et là, je suis rendu dans le vide, dans le noir. Et là, c'est le bordel qu'on s'y met. Et donc, je descends et je dis, putain, je suis raté, je suis noir, il y a un
lieu. Continue à creuser.
Tout ça pour qu'on me dise, mais non, tu vas génial. Et je repars après cette crise que j'appelle la crise des trois quarts, que j'ai quasiment à chaque bouquin. Et je repars au bout d'un jour de doute, j'en parle aussi. Et d'un seul coup, tout s'éclaire. Et c'est ça qui est magique, il y a cette espèce aussi de passage initiatique qui est la confiance dans le livre. Oui, il faut que j'ai confiance dans le livre, c'est en train de s'éclairer. Et d'un seul coup, tout s'éclaire, ça galope vers la fin avec un plaisir total. C'est marrant.
Bien. D'autres questions?
Je voudrais m'adresser justement à Pierre Bordage. Justement, je vous ai écouté là tout à l'heure dans le thriller fantastique Terreur ça déchire, et je vous retrouve là. Je dis tiens, je vais voir un petit peu pour les jeunes, écrire pour les jeunes sans les prendre pour des idiots, et j'espère bien qu'on ne les prend pas pour des idiots. Et moi, justement, tout ce que vous écrivez, que ça soit dans le premier épisode où je vous ai entendu, est-ce que ça s'adresse également aux jeunes? Ou est-ce que vous faites une distinction?
Toute ma production, vous voulez dire, qui ne soit pas classée dans des catégories jeunesse. Écoutez, j'ai été surpris un jour dans Le Guide du Silence, qui est un cycle de 2100 pages, sans dessin. Et je reçois un courrier d'un lecteur de 11 ans qui me dit c'était avant la parution du tome 3, et il fait une critique sur le tome 1 et le tome 2, et en disant sûrement que quand le troisième doit y sortir, etc. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est plus, alors, ce sont des raisons économiques qui font qu'on a des catégories jeunesse et tout ça. Et enfin, l'édition a besoin de catégoriser soit en genre, soit en catégorie d'âge. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était plus qu'une question d'âge, une question de maturité de lecteur. Je pense qu'il y a des lecteurs très jeunes qui sont capables de gober des trucs assez incroyables. Et Harry Potter, quoi qu'on pense du phénomène, a montré, parce que les éditeurs français étaient persuadés que les jeunes ne pouvaient pas lire plus de 180 pages. Là, ça y est, c'était fini, ils décrochaient. Or, ils sont en train de publier sans aucun problème des bouquins de 700 pages, ce qui veut dire qu'il y avait plein d'idées reçues sur la façon dont les jeunes, à partir du moment où ils sont dans l'histoire, ils sont contents de l'histoire, ils peuvent s'en avaler des trucs. Et j'ai découvert ça avec ce lecteur-là, il m'a donné son numéro de téléphone, je l'ai appelé, il est en 6e. Et je lui dis, mais tu dois t'emmerder en 6e parce que vu ce que tu m'as raconté sur le bouquin, il me dit non, je suis mauvais en plus. Okay. Mais voilà, il avait un père, un gros lecteur de science-fiction, et donc il était rentré naturellement. Donc j'ai tendance à dire que c'est une maturité de lecteur. Et moi, je suis très content de voir un très très jeune, même si ça me fait un peu peur parfois, parce qu'il va rencontrer des moments très difficiles dans les bouquins, où j'ai pas rien, ni souffrance, ni rien du tout. Mais je pense qu'il y a des lecteurs très très mûrs, très très jeunes. Quoi. Et je suis content de les voir arriver dans les bouquins aussi, parce que c'est amusant. On dit Tintin 7 à 77 ans, mais j'essaie de faire de 7 à 177 ans, parce qu'on vient un peu plus vieux maintenant. Pareil.
D'autres questions?
Vous nous avez tous expliqué que vous écriviez les histoires que vous aviez dans la tête sans tenir compte donc ni des attentes des lecteurs, ni des catégories d'âge, ni des modes qu'il pouvait y avoir sur une période donnée. Alors du coup, je me pose la question, est-ce que ça vous est arrivé d'écrire des romans qui ne puissent pas après trouver grâce dans le tiroir parce qu'ils ne peuvent pas trouver de place d'un point de vue commercial parce que ça ne correspond pas justement à la bonne tranche ou à la bonne tranche d'âge, à la bonne littérature, à la mode? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir comme ça des romans que vous aviez envie d'écrire, que vous avez écrits et qui sont restés dans vos tiroirs?
Pas encore, en tout cas. Peut-être un jour. Moi, je n'ai pas le même passif, la même expérience en la matière, mais j'en ai en effet un pour le moment qui ne trouve pas encore d'éditeur. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas se presser pour ces choses-là, justement. C'est un peu drastique de dire ça y est, il a pas trouvé d'éditeur, mais je crois qu'il y a parfois des choses qu'on a envie de raconter qui voilà qui rentrent pas dans une case donnée, mais c'est tout est une question de rencontre en fait. Et je pense qu'un éditeur et un manuscrit, c'est voilà, ça correspond ou ça correspond pas pour tout un tas de raisons, aussi bien la qualité que les affinités que les goûts. Je pense qu'une maison d'édition, c'est aussi le reflet de la personne qui fait ses choix en matière littéraire. Donc voilà, mais j'ai aucun regret par rapport à ça. Je veux dire, justement, il faut écrire et qui sait, dans 5-6 ans, c'est ça qui est bien avec l'écriture, on n'est pas pressé.
Après, ça dépend du statut de l'auteur, parce que si vous avez signé un contrat avant d'écrire, c'est tout à fait différent de si vous écrivez en recherche un contrat après. Ça change complètement les choses, parce que l'éditeur va être beaucoup plus attentif à ce que vous écrivez, et même si c'est partiellement raté, il va vous faire retravailler pour que ça puisse, parce que lui, il a investi aussi quelque part. Donc il va reprendre le manuscrit, il va dire là ça va pas, et peut-être il y a un changement de structure ou bien ceci cela, mais il va faire en sorte que ça soit publiable, je pense. Parce qu'encore une fois, c'est un investissement. Moi, j'ai un roman qui n'a jamais trouvé de preneur, mais c'est un roman de littérature générale, donc je ne suis pas fait pour, apparemment. Ça confirme ce que je pensais. Bien qu'il y avait un élément fantastique dedans, mais voilà, que peut-être une personne n'a voulu parce qu'il était trop différent de ce que je faisais. Pour moi, c'était une sorte d'exutoire, et puis bon, il est toujours resté. Mais là, il y a un IUT du livre de La Roche-sur-Yon qui veut le publier. Donc, je suis fier. J'en aurais plus du coup.
Non, mais je disais, oui, en ce qui me concerne, ben, je m'évite ce genre de problème, voilà, en développant déjà une idée, un univers, et c'est avec ça que je vais retrouver frapper à la porte des éditeurs, et j'attends de trouver celui qui s'engagera là-dessus. Je n'écris pas le livre complet voilà, pour m'éviter ce genre de déconvenu. Ouais.
Maintenant, on propose un projet à un éditeur, même si on n'a pas tout dans le détail, oui. Il va apporter une grande idée, et puis il accroche ou il accroche pas. Mais du coup,
oui, mais en plus, l'éditeur connaît l'auteur. Donc,
voilà, c'est ça.
Quand on a publié, c'est beaucoup plus facile, c'est évident. C'est la première édition, qui est, la première publication qui est très difficile, parce que là, on arrive de nulle part. Il faut que l'éditeur s'engage sur un auteur que personne ne connaît, donc investit sur cet auteur-là, et donc c'est ça le plus difficile. Moi, j'ai mis 8 ans pour publier mon premier manuscrit.
Non, puis ce qui est intéressant quand on a plusieurs éditeurs, c'est qu'on va pouvoir changer de style d'histoire ou d'univers et savoir exactement à quel éditeur on va proposer quel univers, parce qu'on sait que ça lui ressemble plus, et ça peut-être à l'autre. Ça permet aussi d'explorer d'autres choses et de se balader dans notre imaginaire, tout en sachant qu'on répond quand même à une certaine forme d'attente de différentes équipes éditoriales.
Tiens, encore une question ? Quand est-ce qu'on
va jouer ? On n'a pas parlé des couvertures et je me demandais si c'est vous qui choisissiez ce que vous vouliez ou si vous laissiez le dessinateur lire et faire ce que lui, ça lui sortait de ce qu'il a lu.
C'est-à-dire l'illustrateur, enfin, ça reste aussi un, pour sortir les grands slogans, ça reste un artiste libre aussi, donc effectivement, c'est quand même toujours enfin, sa vision. Après, il arrive de temps en temps, quand on le connaît, etc., il peut nous montrer la progression de son travail et on peut éventuellement... à l'étape des croquis, je dis bien éventuellement donner un avis orienté, mais sachant qu'en dernier recours, voilà, c'est l'illustrateur va donner sa vision d'une scène, d'un livre. Souvent, il dit pas tout, etc. Il a que quelques éléments donnés par l'éditeur. Il y a tous les cas de figure. Il y a aussi les cas de figure parfois où on a pas notre mot à dire et on découvre au final, alors que ça nous plaise ou non, ça c'est autre chose, c'est plus personnel, mais. Voilà, il arrive, j'ai plusieurs de mes livres, je ne dirais pas lesquels, je déteste les couvertures, mais mais je sais qu'elles plaisent aussi, donc voilà, donc c'est... Mais enfin voilà, de manière générale, non, l'illustrateur est entièrement libre de donner... Alors, il pourra avoir des indications plus ou moins pressantes de l'éditeur aussi, mais enfin, de manière générale, ça reste une... Oui, ça se fait en totale liberté, me semble.
Oui, globalement. Par exemple, je travaille ici, c'est un illustrateur qui s'appelle Jess, qui est un auteur de bande dessinée, qui d'ailleurs ne veut plus faire de livres, mais moi je suis content qu'il fasse mes liens encore. Comme il me connaît, il lit les livres avant lui. Il fait partie des illustrateurs qui lisent les livres, et il me propose quelque chose. Et des fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Je dis, ben non, là tu en dis trop ou pas assez, ou je ne sais pas. Mais on en discute, et après, il fait un travail final. Ça, c'est quand on a la chance de bien connaître l'illustrateur, et qu'on est en confiance avec lui, et qu'on sait qu'il illustre bien son imaginaire. Après, là, c'est un Suisse qui s'appelle Sylvain Lumière, donc ça, c'est différent. Là, c'est un travail avec l'éditeur, et il me propose de temps en temps l'avancée du travail, comme disait Johan. Après, il y a des éditeurs qui travaillent avec des cabinets graphiques, comme le Diable Vauvert. Le Diable Vauvert, par exemple, sur un roman, le cabinet graphique va proposer 4-5 couvertures. Et là, on va se mettre d'accord avec l'éditrice pour savoir laquelle correspond le mieux au livre. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas de figure. Sur le poche, c'est encore différent parce que sur le poche, ce sont des contrats d'éditeur à éditeur et on n'a pas grand-chose à dire. Hein. On a le bouquin, on reçoit le bouquin, on reçoit bien, c'est une livre de poche. Et voilà, qu'on soit d'accord avec la couve, ça ne change rien. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas de cas de figure.
Dans mon cas, Benjamin Carré m'a fait 5 couvertures.
C'est magnifique, Benjamin Carré.
Et maintenant, on commence à avoir un peu l'habitude. Donc, on s'envoie des mails. Au début, on ne le faisait pas. Ça passait par l'éditeur, ensuite par moi, qui faisait mon avis, qui repassait par l'éditeur. Puis là, par exemple, pour celle-là, il me dit il faut dessiner l'ombre. Alors, il me dit qu'est-ce que c'est l'ombre. Alors, je lui ai envoyé le passage du livre spécifique en privé qui décrit l'ombre. Et donc, il a fait. Mais je lui fais vraiment une confiance énorme. Donc, j'aime bien aussi l'émotion. C'est renversant. L'émotion qu'on peut avoir quand on reçoit une couverture et qu'on ne sait pas encore exactement à quoi elle peut ressembler. On a donné des indications, donc on sait que ça va être cadré à peu près. Mais ensuite, l'illustrateur se lâche, il voit les choses à sa façon, il va les interpréter à sa manière. Et d'un seul coup, on reçoit des couvertures. Ça fait un coup au cœur, quoi. Quand c'est vraiment réussi, c'est... D'un seul coup, il y a quelque chose qui prend envie.
Aussi, ça fait...
Oui. Mais j'ai de la chance avec Benjamin, je suis quand même à l'abri de ce genre de choses.
Benjamin, super boulot.
Donc c'est vrai que là, par exemple, ça, ces deux couvertures de Benjamin Carré, à chaque fois que je les ai reçues, ça a été une émotion de découvrir comment il voyait les choses et donner vie au personnage qu'on a imaginé. Donc là, c'est plutôt hyper positif.
Et de même, c'est Mia qui a fait les illustrations, donc, qui est mangaka en fait chez Hachette. Et en fait, c'est une amie depuis que j'ai 15 ans. Et quand j'ai été publiée, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement? Et on s'est arrangé avec mon éditrice qui a aimé, qui était d'accord. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de liberté en fait dans l'illustration, même s'il y avait des indications sur la scène. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir pu faire communiquer comme ça nos univers. Et maintenant, on a des travaux en fait en scénario sur ses propres mangas. Donc voilà, on a cette communication qu'on espère garder pendant encore longtemps.
Et ce qui est étonnant dans la couverture, c'est exactement comme la réaction face au bouquin. Nous, j'adore une couverture, et les gens disent t'as la cible de la couverture. Non, elle est bien quand même. Et des fois, nous, on a l'impression que la couverture est vraiment naze. Et le mec, je m'en vais de la couverture. Et ça, c'est un. Enfin, les éditeurs, ils ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils savent
ça,
pas.
C'est subjectif.
C'est vrai, dans subjectif, il n'y a pas de secret de réussite de couverture. Une couverture, c'est comme les romans. On les met sur la disposition des gens et les gens prennent ou prennent pas.
Bien, merci. Et alors, j'ai posé une dernière question qui a prouvé que j'ai rien compris à ce que vous avez dit. Vos prochains projets, c'est jeunesse ou pas?
Dès que j'aurai terminé le roman adulte que je suis en train d'écrire, oui, parce que je vais clôturer avec un quatrième tome cette série-là. Effectivement, donc ça sera jeunesse. Mais bon, ça se lit à tout âge.
Oui, moi là j'ai 3 projets en cours. Et c'est 3 jeunesses.
J'ai un projet jeunesse et un projet adulte, justement en littérature générale, donc on verra.
Moi j'ai un projet vieillesse. C'est facile parce qu'on remplit toujours la même phrase parce qu'ils oublient, il faut faire mesure. C'est plus facile à écrire. Pardon. Je dois faire le tome 3 de ceux de Luc Rodin qui va boucler d'ailleurs toute la collection. Du coup, c'est un peu dommage que la collection s'arrête. Et puis après, voilà, je suis dans ce cycle-là qui est un cycle pour tout le monde. De 7 à 177.
Bien, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous.